dur à avaler, le blog qui dissèque méthodiquement les idées reçues sur la santé. Le casse-tête des coupeurs de feu à l'hôpital. C'est rebouteux, adoubé par les pros. Quand on se lance dans des débats scientifiques sur l'intérêt de solliciter les compétences des coupeurs ou barreurs de feu pour soigner des brûlures, par exemple, les débats, ils s'enflamment, hein. Les plus sceptiques d'entre nous brandiront avec une certaine fierté des études qui rangent cet art en espèce de thérapie placebo bienfaisante, tandis que les autres rétorqueront l'argument massu des hôpitaux où ils interviennent très régulièrement. Si des professionnels de santé ont recours à des rebouteux et des magnétiseurs pour soulager des malades, c'est bien que ça doit fonctionner. Et vous auriez parfaitement raison de penser cela, car c'est bien vrai. C'est en substance ce que je raconte dans mon enquête sur le Reiki, où les bienfaits sont incontestables pour les patients, mais sans que le moindre phénomène magique ou surnaturel en soit la véritable cause. Et je vous invite aussi à lire d'ailleurs mon enquête sur le Chi et le docteur miracle capable de soigner les cancers. Je ferme cette parenthèse. Tout se joue en fait dans le cerveau des patients, du moins ceux qui s'avèrent être les plus réceptifs à ce genre de manipulation de l'esprit, au point d'entraîner des modifications physiologiques clairement démontrées sur le ressenti de certaines douleurs. Cela peut donc faire du bien aux patients et améliorer leur bien-être. On va dire que c'est le côté positif dans la balance, mais il y a aussi un côté négatif. Sur les patients eux-mêmes, avec la possibilité d'inhiber des douleurs et donc de masquer un problème de santé plus grave, et sur l'accréditation donnée aux rebouteux grâce à l'hôpital. Et la question est primordiale. Peut-on à la fois proposer aux patients des soins alternatifs qui procurent du bien-être dans certains cas, sans diffuser dans l'esprit des gens des idées un peu farfelues, ésotériques, avec des dérives potentiellement plus graves? Vous comprenez le dilemme que nous avons là? La double manipulation de l'esprit. C'est peut-être le plus amusant dans cette histoire de magnétisme et d'imposition des mains miraculeuses. Les soigneurs arrivent à manipuler l'esprit des patients, entraînant ainsi des bénéfices scientifiquement mesurables, et par retour de manivelle, ils arrivent à se convaincre d'avoir un pouvoir. Un pouvoir dont l'origine possède des variantes presque infinies. On retrouve bien sûr la prière avec une forte proximité religieuse, des dons transmis de génération en génération et parfois des illuminations spontanées sans vraiment aucune explication logique. En fait, cela ne date pas d'hier que nous savons que les patients ont besoin de soutien pendant une période de convalescence. De soutien, de compassion et d'une présence aussi, bienveillante ou neutre d'ailleurs. Les travaux indépendants et rigoureux se comptent sur les doigts de la main pour certaines affections comme l'anxiété. Une étude qui a bientôt plus de 15 ans avait déjà montré le rôle bénéfique d'une séance factice de Reiki chez des malades du cancer soignés par chimiothérapie. Un bénéfice sur le bien-être des malades obtenu par un maître certifié qui modifie les courants énergétiques, mais aussi par un comédien qui ne fera lui que s'amuser et simuler un acte guérisseur. Il n'y a donc pas vraiment besoin d'avoir un talent particulier ni un don hérité à travers les âges pour faire du bien aux patients. Ces observations nous rappellent bien sûr la triste réalité médicale, elle est froide et parfois dégradée, où les patients deviennent des numéros dans un contexte de crise, il faut le dire, gravissime. Encadrer les rebouteux ou former les pros. Voilà un dilemme que je vous présentais au début, car des listes de coupeurs de feu existent bel et bien dans certains hôpitaux en France. Lors d'une brûlure, les services d'un coupeur de feu sont souvent proposés conjointement avec une prise en charge conventionnelle. Mais alors, faut-il interdire ces pratiques? Faut-il mieux les encadrer? Ou former des professionnels de santé déjà en place? Il y a clairement dans cette problématique une question d'argent et de moyens. Car qui dit contrôle, dit régulation, commission avec un budget, des objectifs et un cadre bien défini. Mais former des professionnels de santé implique aussi des coûts, des questions importantes sur la nature des formations, sur les limites à ne pas franchir et comment obtenir des bénéfices sans justification ésotérique ou spirituelle invraisemblable. Et nous savons tous que l'hôpital public est en crise depuis longtemps. Ce n'est un mystère pour personne. L'argent magique n'existe pas, en tout cas pas pour l'hôpital, et nous devrions investir pour encadrer des méthodes alternatives ou mieux former des soignants? Sur le papier, cela semble être un rêve pieux. Une tribune parue en 2021 dans le journal du Monde avait bien émis des remarques similaires et des recommandations pour ne pas jeter bébé avec l'eau du bain. Autrement dit, il y a un besoin important et urgent de clarifier cette situation sans l'interdire brutalement. Tout le monde serait perdant quelque part. Il faudrait peut-être laisser tout simplement plus de temps aux soignants pour s'occuper dignement des malades, avec du temps, de la bienveillance et de la compassion. Une vision clairement utopique quand on effleure la sombre réalité du quotidien de ces soignants. L'épuisement professionnel toucherait 60 à 70% des soignants français. Le secteur de la santé et de l'action sociale possède la mortalité par suicide la plus élevée. Alors comment pourrait-on améliorer la prise en charge des patients avec des soignants autant en souffrance? Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis sur vos réseaux favoris ou l'envoyer par mail. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, de nouveaux articles, et n'hésitez pas à soutenir ce travail d'investigation 100% indépendant en vous abonnant et en continuant de nous suivre. À bientôt.